Oui, excusez-moi de trahir le titre, mais je pense que le sujet que j'ai choisi était sans doute plus intéressant que le premier titre que j'avais donné. Donc, Marcel Proust et le moderne style. L'Art nouveau, mouvement en faveur de l'unité de l'art, fut transnational par excellence. Les échos qu'il rencontre dans la recherche sont à la fois ténus et à première vue confus. Cette confusion mérite qu'on s'y arrête. Depuis un mémorable article de Mario Praz, en 1947, les intérieurs et les objets de Proust retiennent l'attention de la critique. Les travaux sur le japonisme, l'orientalisme, les arts décoratifs, le verre, l'ameublement et l'ornement dans la recherche, les parallèles entre l'ambition totalisante des théoriciens de l'art nouveau et la cathédrale proustienne se sont multipliés. Curieusement, le « modern style », évoqué dès 1913 et mentionné 5 fois dans la recherche, n'a jamais été défini. Pourtant, Proust n'a pas choisi cette expression par hasard. Des identifications demeurent en suspens, des rapprochements en attente, dans un contexte historique précis. Les références de Proust n'ont pas été élucidées, son imprécision en matière d'art décoratif, qui contraste avec son information maniaque dans le domaine de la mode, n'a pas été dissipée. Or, il ne peut être question du « modern style », un des signes qui crypte la recherche, comme d'une étiquette entendue. Cette désinvolture terminologique est responsable d'un malentendu interprétatif. Un constat simple en préambule, Proust n'utilise jamais l'expression art nouveau à laquelle il préfère le pseudo-anglais « modern style », suivant la tendance d'une époque aussi superficiellement anglomane que politiquement anglophobe, à l'heure de Fashoda et de la guerre des bourgs, conformément aussi à l'esprit cosmopolite qui caractérise un courant rénovateur aux étiquettes mouvantes, comme la France, l'Italie emprunte à l'Angleterre en parlant de style et liberty, du nom de la célèbre maison de Regent Street, tandis que l'Allemagne revendique le Jugendstil, l'Autriche le Secessionsstil, qui s'inspire des indépendants français, la Hollande le Nieuwe Kunst et l'Espagne l'Arte Joven. Les Britanniques, quant à eux, se réclament de l'Aesthetic Movement et des Arts and Crafts. Le modern style qu'on chercherait en vain dans la littérature anglaise et que Robert de la Cisrane écrit « moderne style » est aussi peu britannique que le fauteuil club, invention française, et que le footing, mot que les Anglais finiront bien par nous emprunter, comme notait spirituellement Paul Morand. Admirateur des publications de Roger Marx sur la décoration, le socialisme esthétique et l'art industriel, Rémy de Gourmont se gaussait déjà en 1902 d'une tournure stupide. Le modern style, l'anglais des imbéciles n'est pas toujours aussi transparent, manqua de se discréditer par cette formule d'une anglomanie naïve. En 1906, Camille Mauclerc admettait la nécessité de créer un art nouveau et un style moderne sans avoir besoin du barbarisme de modern style. Comment l'expression que blague ses contemporains ne serait-elle pas sarcastique chez Proust ? Ignoré des artistes et des théoriciens, le modern style, formule parodique qui stigmatise l'anglomanie, n'est pas un style, mais un poncif, un fourre-tout, où la gantière et le mastroquet, pour le dire avec Gourmont, rangent pêle-mêle les multiples courants de l'art nouveau et leurs piètres déclinaisons. À la différence du modern style, l'art nouveau existe, mais il n'est pas né en France. L'art nouveau est belge, il ne s'en relèvera pas. L'expression « art nouveau » apparaît, semble-t-il, en 1894 à Bruxelles, dans la revue « L'art moderne », fondée par l'avocat socialiste et antisémite Edmond Picard, sous la plume du juriste, sinologue et affichiste Gisbert Combaz. Je le cite, « Dans la tourmente d'idées qui nous emporte, alors que tant d'âmes artistes aspirent désespérément à un art nouveau, n'est-il vraiment pas bizarre ce spectacle auquel nous assistons ?» dans l'enseignement de nos officielles écoles d'art, où l'on ressasse toutes les vieillottes et avachies formules. Oh, cette sotte distinction entre un grand et un petit art. Edmond Picard renchérit lors d'une tournée bruxelloise du Théâtre de l'Œuvre, en s'adressant au poulailler dans sa conférence inaugurale, « Je vois vos yeux clairs, pleins d'éclairs, c'est en vous que l'art nouveau place ses espérances. » L'art nouveau s'impose en France l'année suivante. Le 26 décembre 1895, il triomphe à l'angle de la rue de Provence et de la rue Chauchat, en enseigne de la galerie d'art de Siegfried Bing, agencée par Henri van de Velde, dont Marcel Proust, proche de Marie Nordlinger, qui y était employée, fût un familier, sinon le client assidu. Dès janvier 1896, Camille Mauclerc, qui était alors défenseur du symbolisme et socialiste réformiste, salue ce transfert. La société de la maison d'art à qui M. Edmond Picard a fastueusement confié tout son hôtel de la Toison d'Or à Bruxelles a ouvert au public un musée d'art nouveau. Et trois semaines après, ce titre prometteur, l'art nouveau, a été repris par M. Bing, le grand collectionneur d'art japonais, ouvrant en ses magasins de la rue de Provence une série de salles où les moindres objets, comme les plus importantes peintures, donnent l'exemple du renouvellement actuel. Résumons. Au début de l'affaire Dreyfus, un juif allemand naturalisé français tente d'acclimater à Paris, dans un espace conçu sur le modèle des ateliers new-yorkais de Louis Comfort Tiffany, une esthétique anglaise importée sur le continent par un riche avocat antisémite affilié au Parti ouvrier belge. Dans son ouvrage fondamental sur l'art nouveau dans la France fin de siècle, Deborah Silverman résume la situation de façon lapidaire. The maison de l'art nouveau Bing was erected on the dual foundation of American crafts and Belgian interior space. Art nouveau, Armétech. Transnational, tout en exprimant des soucis distincts suivant les traditions vernaculaires, l'art nouveau ne soulèvera que davantage la question des origines à une époque taraudée par le cosmopolitisme. L'opportuniste et versatile Mauclerc, gagné par la xénophobie, cherche à définir la différence entre l'art et les arts décoratifs suivant des critères nationalistes, à rebours des théories anglaises, à la fois socialistes et individualistes, dont Oscar Wilde s'était fait le porte-parole en 1882 dans une fameuse conférence à Chicago sur la décoration intérieure. Il y a, je cite Mauclerc, il y a ainsi auprès de l'art indifférent aux conditions nationales, un art des races, et il faut le déterminer. Nous savons aussi bien qu'une fresque de Tiepolo, une tapisserie dessinée par Fragonard, un ameublement de Maple ou de Liberty n'auraient pas pu naître ailleurs que dans les pays qui les virent naître. Camille Mauclerc s'appuie sur Edgar Poe pour étayer sa démonstration. Le courant souterrain du génie étant universel, comme dit la genèse d'un poème, le courant visible des arts décoratifs qui montrent ce qu'ils sont ne peut exister que relativement à un temps et à un lieu, comme dit la philosophie de l'ameublement. La perspective générale est clairement symboliste. L'essence de l'œuvre d'art est dans ce qu'elle ne manifeste pas. Comme c'est laid chez vous, ce serait écrit Oscar Wilde dans l'appartement des Proust en 1891, et comme s'exclame Charlus chez le narrateur dans La prisonnière. Comme c'est laid chez vous. L'indifférence de Proust à son propre décor, maintes fois soulignée, son goût pour l'anonymat des chambres d'hôtel n'a rien de paradoxal. À la différence d'Oscar Wilde et d'Edith Wharton, enragé de décoration intérieure, d'Henry James, qui manifesta la même passion dans The Spoils of Poynton, il séparait la vie de son cadre. Sa conception de l'art l'amenait par ailleurs à désapprouver la cohabitation du tableau et du bibelot, sur le modèle proposé par la mise en scène historiciste de l'hôtel Porges, comme dans les préceptes exposés chez Tiffany et chez Bing. Mais dans la recherche, de quelle vérité cachée le modern style est-il le nom ou le hiéroglyphe ? Je passe ici sur deux passages que je développerai à l'écrit, mais que je n'ai pas le temps de développer à l'oral. Le fameux texte de Proust sur la lecture, où il exprime l'idée que les théories de William Morris sur les arts and crafts ont été appliquées par le grand magasin d'ameublement anglais Maple, qui avait une succursale à Paris. Et Proust avait demandé à sa mère d'aller, en 1905, d'aller lui chercher un catalogue chez Maple pour avoir une idée d'une chambre idéale dans le goût anglais. Et là, Proust est tout à fait à côté de la question. Voici, à titre indicatif, une page du catalogue de Maple de 1905, style éclectique qui ne reflète absolument pas les arts and crafts et certainement pas les idées de William Morris, Maple qui fournit l'aristocratie, la grande bourgeoisie, est aux antipodes esthétiques et idéologiques des idéaux des arts and crafts. Et voilà l'intérieur, en 1905 toujours, de Voysey, un des principaux designers des Arts and Crafts pour le magasin Liberty. C'est la maison de Voysey à Chelsea, la même année 1905. Et donc vous voyez évidemment que Maple, ce n'est pas du tout les Arts and Crafts. Par ailleurs, il y a, je pense aussi qu'il y a un climat Maple dans la littérature française, et je ne détaille pas ici. Gentinan, Boilève, tous les écrivains contemporains de Proust parlent de Maple en croyant que c'est le goût anglais, et le fameux portrait de Jacques-Émile Blanche représentant le jeune Gide à 21 ans le représente devant une armoire de chez Maple qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le catalogue. Alors que reste-t-il de ces débats dans la recherche ? Un déplacement significatif, tout d'abord, intervient dans la recherche. La référence aux Arts and Crafts de Sur la lecture fait place à un renvoi tout aussi vague, mais systématique, au Jugendstil munichois. Et non pas par hasard. En 1913, apparut l'ouvrage de René Escolier, Le Nouveau Paris, La vie artistique de la cité moderne, où Escolier exprime la reconnaissance de l'art nouveau comme renouveau du goût national, et François Loyer a consacré un article passionnant à ce sujet. Ce renvoi systématique au Jugendstil munichois suffit à indiquer la fugacité de l'influence de William Morris, mais indique surtout, bien sûr, la rivalité avec l'Allemagne, dont l'industrie se faisait de plus en plus envahissante. Dans la recherche, l'esthéticisme anglais est donc éclipsé par le renouveau germanique, où Munich et Vienne se confondent. Paul Morand déplore la décadence du goût, venue de Vienne, une vague d'erreurs déferle sur l'Europe. Octave Mirbeau se désole, lui, à Düsseldorf, la ville par excellence du modern style, où il est descendu au Bradenbacher Hof, un de ses grands hôtels, je cite Mirbeau, « comme nous n'en avons qu'à Paris et dans quelques villes d'eau, un de ces caravansérails nouveaux et art nouveaux d'Occident, construit par les Belges et les Suisses pour les habitudes de confort des Américains et des Anglais. » Tel va se présenter le modern style dès sa première apparition dans du côté de chez Swann, dans la chambre hygiénique, dépouillée et ripollinée du grand hôtel de Balbec, délivrée de la cacophonie des bibelots, suivant l'idéal d'Henri van de Velde, chambre qui est une réminiscence possible de la chambre de Maple, dont Marcel avait demandé la photographie à maman. Aspiration momentanée, mais hautement improbable, comme l'avait bien compris Luchino Visconti lorsqu'il effectua des repérages pour un film auquel il pensa toute sa vie et qu'il ne tourna jamais. La photographie du chef décorateur Mario Garbuglia, qui accompagne le script de Suso Cecchi d'Amico, prise au Grand Hôtel de Cabourg avant sa rénovation en 1970, montre une chambre étouffante, conforme aux habitudes d'un milieu que le cinéaste connaissait par atavisme, mieux placé que quiconque, pour sentir l'invraisemblance de la description de Proust. Comment reconnaître dans la même chambre qu'à Évian, dans la glace carrée du carnet de 1908, cette pièce idéale, meublée de bibliothèques incongrues dans une chambre d'hôtel, sortie d'un catalogue de décorateurs et expressément présentée comme telle? L'installation de cette chambre ne correspond en rien au style éclectique de l'hôtel inauguré en 1907, décrit en détail par le correspondant du Figaro, adapté aux attentes de la clientèle par les architectes Lucien Viraud et Émile Mauclair, et encore moins à la laide, banale et triste chambre 414, reconstituée à Cabourg. Voici cette première occurrence du modern style. Donc voici la salle à manger du Grand Hôtel de Cabourg en 1907. On est évidemment très très loin du modern style. Excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà la citation du côté de chez Swann. Le tapissier bavarois qui avait été chargé de l'aménagement de cet hôtel avait varié la décoration des pièces et sur trois côtés fait courir le long des murs, dans celles que je me trouvais habitée, des bibliothèques basses à vitrines en glace, dans lesquelles, selon la place qu'elles occupaient et par un effet qu'il n'avait pas prévu, telle ou telle partie du tableau changeant de la mer se reflétait, déroulant une frise de clair marine qu'interrompaient seuls les pleins de l'acajou. Si bien que toute la pièce avait l'air d'un de ces dortoirs modèles qu'on présente dans les expositions modernes style du mobilier, où ils sont ornés d'œuvres d'art, qu'on a supposé capables de réjouir les yeux de celui qui couchera là et auquel on a donné des sujets en rapport avec le genre de site où l'habitation doit se trouver. Suivant les préceptes de l'art nouveau, des étagères en longueur plutôt qu'en hauteur s'adaptent à la portée de l'individu. Si, en 1905, le jeune Proust s'était mépris sur le sens des « patterns » de William Morris, il croit qu'il s'agit de reproduction, comme Emily Hills l'a bien relevé, et en fait il s'agit des pochoirs, des motifs répétés de l'art nouveau. En 1913, la réverbération de la mer trace sur les bibliothèques imaginaires une frise qui évoque, autant que Boudin ou Whistler, les pochoirs véritables décorant les cimaises des expositions modèles. Dans son éreintement de la galerie Bing, Arsène Alexandre avait déjà associé la frise, marque distinctive de l'art nouveau, au contexte balnéaire, ce parti de décoration par bandes de couleurs variées surmonté d'une frise de personnages empruntée à l'architecture des caleçons de bain. Alors, à son apogée, cette technique triomphe sur la ligne nord-sud inaugurée fin 1910, dans le décor floral stylisé au pochoir, sur les briquettes à l'entrée des stations, assortie d'une résonance maritime. Des frises de vagues en faïence turquoise, céladon, bistre, courent le long des couloirs du métro. À l'exposition de 1900, Robert de la Cizeranne s'exclamait « S'il y a un style moderne, c'est un style essentiellement sous-marin. » Les allusions à l'étranger s'estompent dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » où le moderne style voisine avec les impressionnistes présentés à l'exposition de 1900, Albert Lebourg, peintre des vagues normandes, et Armand Guillaumin, peintre des rives de la Seine. Si les efforts de sincérité et d'émancipation de Saint-Loup ne pouvaient être trouvés que très nobles, en jugé par le résultat extérieur, il était permis de se féliciter qu'ils eussent fait défaut chez M. de Charlus, lequel avait fait transporter chez lui une grande partie des admirables boiseries de l'hôtel Guermantes, au lieu de les échanger, comme son neveu, contre un mobilier moderne style, des Lebourg et des Guillaumin. La charge apparente contre Saint-Loup se poursuit dans le côté de Guermantes pour opposer les conservateurs du passé aux clients de Bing. Tandis que Saint-Loup avait vendu son précieux arbre généalogique, d'anciens portraits des bouillons des lettres de Louis XIII pour acheter des carrières et des meubles modern style, etc. Et à la fin, à cause de cela, elle rendait légitime de la part de la duchesse son hilarité devant les mots « vatique, cosmique, pitique, suréminent » qu'employait Saint-Loup, de même que devant ses meubles de chez Bing, passage sur lequel je reviendrai. La Grande-Bretagne ressurgit dans la prisonnière, non dans les arts décoratifs, mais dans les manières qui les inspirent à titre de brepoussoir. Dans une alternative floue, Proust distingue dans la prisonnière le Jugendstil d'un moderne style nécessairement indécis. Les bonnes, selon M. de Charlus, étaient les vieilles manières françaises, sans ombre de raideur britannique, comme il aurait protesté contre le style munichois ou le moderne style en gardant de vieux fauteuils de son arrière-grand-mère, opposant au flegme britannique la tendresse d'un père sensible du XVIIIe siècle. Dans le temps retrouvé, enfin, la Russie s'invite avec Léon Bakst, décorateur et costumier des ballets russes. Le moderne style est cette fois totalement assimilée au Jugendstil. Andrée venait rarement avec son mari, mais elle était pour moi une amie admirable et sincère. Fidèle à l'esthétique de son mari, qui était en réaction contre les ballets russes, elle disait du marquis de Polignac, « Il a sa maison décorée par Bakst. Comment peut-on dormir là-dedans? J'aimerais mieux du buff. » D'ailleurs, les Verdurin, par le progrès fatal de l'esthétisme qui finit par se manger la queue, disaient ne pas pouvoir supporter le moderne style, de plus c'était munichois, ni les appartements blancs, et n'aimait plus que les vieux meubles français dans un décor sombre. Le 4 mars 1911, Proust avait confié son émotion à Reynaldo Hahn, « Dites mille choses à Bakst que j'admire profondément, ne connaissant rien de plus beau que Scheherazade. » Comment donc interpréter les apparitions de ce moderne style semé à intervalles réguliers comme autant de petits cailloux dans 5 des 7 tomes de la recherche. À 2 années de distance, Emilien Carassus et David Mendelssohn, respectivement en 1966 et 1968, commirent le même contresens à propos du même passage du côté de Guermantes. Carassus écrivait « Proust critique le résultat esthétique des efforts sincères de M. de Saint-Loup. M. de Charlus a su garder les admirables boiseries de l'hôtel Guermantes au lieu de les échanger comme Saint-Loup contre un mobilier moderne style des Lebourg et des Guillaumins. » Deux ans plus tard, inventant un moderne art encore plus imaginaire que le moderne style, Mendelssohn emboîtait le pas de Carassus et s'aventurait au-delà de la paraphrase. Fort curieusement, le seul personnage à s'élever vigoureusement contre ce genre de décoration est le baron de Charlus. Il reproche en effet à son neveu Saint-Loup, avec la violence qui lui est coutumière, d'avoir vendu des reliques familiales pour acheter des carrières et des meubles modernes style, des meubles de chez Bing, et il vilipendra jusqu'au bout. Une mode qu'il juge futile. Or, la fureur de Charlus contre le moderne style n'a rien de curieux. Elle est, on ne peut plus, cohérente. Dans sa philippique du Figaro contre la galerie Bing, le critique Arsène Alexandre n'avait-il pas salué, en Robert de Montesquieu, admirateur de Jean-Henri Riesner et de Georges Jacob, ébéniste du XVIIIe siècle, l'adversaire de l'art nouveau. Et dans ses souvenirs d'un journaliste, Lucien Corpechaud, rappelle que Montesquieu, même s'il patronna Galet avant de se brouiller avec lui, n'aurait toléré dans aucune de ses demeures des meubles de Majorel ou de Bing. La lecture littérale des deux critiques ne leur a pas permis de dégager la corrosive ironie de ces lignes, dont le sens est inverse à celui qu'ils leur prêtent. Par un effet de soumétrie sous-jacente, elles font pendant à l'exclamation du duc de Guermantes « Quand on s'appelle le marquis de Saint-Loup, on n'est pas de Réfusard, que voulez-vous que je vous dise ?» A fortiori, quand on s'appelle le marquis de Saint-Loup, même quand on a la prétention de marcher avec son temps comme le duc, on ne se meuble pas chez Bing. De même, il faut entendre par antiphrase les reproches adressés à Bakst par André, qui lui préfère le peintre officiel et mondain Guillaume Dubuff. Pourquoi Proust aurait-il associé au mépris du moderne style deux artistes qu'il admirait, Léon Bakst et l'ardent Dreyfusard, Eugène Carrière, à qui Clémenceau avait confié l'affiche d'inauguration de l'Aurore, s'il ne voulait faire passer un autre message? La condamnation du moderne style par le duc et la duchesse de Guermantes et par Charlus est une facette de leur anti-dreyfusisme. Des Verdurins Dreyfusard, on comprend que c'est par snobisme plutôt que par conviction qu'il vilipende une mode avec un train de retard quand les enjeux qu'elle traduit ne sont plus en cause. En 1924, Edith Wharton, aussi versée en littérature qu'en ameublement, annonçait la méprise lorsqu'elle abordait dans son article sur Proust la vénération naïve de Saint-Loup pour les derniers cris en culture. Le mobilier moderne style de Saint-Loup, son goût pour carrière exposé chez Bing, vont de pair avec le dreyfusisme qu'il abjurera après sa rupture avec Rachel. L'art nouveau, agent du cosmopolitisme judéo-belge et des ballets russes qui leur sont associés, trahissent la tradition nationale comme le capitaine Dreyfus la nation. Comment ne pas voir en effet que le moderne style, sobriquet de cet art nouveau ardemment soutenu par la Revue Blanche, fait partie des nombreuses transpositions détectées par Yuji Murakami dans sa thèse sur l'affaire Dreyfus chez Proust. Le moderne style est le nom de l'esthétique dreyfusarde. Malgré son lancement par un antisémite belge, de nombreux signataires du Manifeste de l'art nouveau étaient juifs, de Siegfried Bing à Lev Samoilovitch Rosenberg, dit Léon Bakst, en passant par les frères Nathanson, fondateurs de la Revue Blanche, et par Julius Meyergreif, qui en 1899 ouvrit une galerie à Paris avec Henri Van de Velde, la Maison Moderne, après avoir été victime d'une campagne antisémite en Allemagne où on l'accusait de négliger les artistes allemands dans ses critiques d'art pour la revue Pan. Lorsque Van de Velde s'installera en Allemagne, ressenti comme étranger aux valeurs saines de l'Allemagne de Goethe, surtout lorsqu'il touche au décor de Weimar, il sera à son tour la cible de la presse humoristique, qui, ne pouvant présenter l'expatrié belge comme juif, s'en prendra à ses commanditaires. L'hostilité au Weldischer Stil s'affiche dans un dessin paru en 1901 dans le Neues Wiener Witzblatt. Une opulente matrone se prélasse dans un fauteuil dont les courbes reproduisent les siennes et l'oreillette l'incurvation de son nez sémite. La silhouette des femmes, le patron de leur robe et jusqu'au motif des tissus s'accordent de façon grotesque aux éléments du décor et inversement. L'osmose est saisissante, Du Jugendstil au Judenstil, le pas est vite franchi, les Juifs et le moderne style font un. Cette caricature n'illustre que trop parfaitement les propos de l'architecte viennois Adolf Loos, ennemi de la sécession viennoise, auteur du pamphlet Ornement et Crime, qui considérait que l'art nouveau, loin de favoriser l'assimilation des Juifs, avait créé un nouveau ghetto. Loos est à l'origine de la rumeur toujours répandue, selon laquelle le véritable prénom de Bing aurait été Samuel. Dans un passionnant article comparant trois grands entrepreneurs de l'art nouveau, tous juifs, le français Siegfried Bing, l'autrichien Fritz Werndorfer, mécène du Wiener Werkstätte, et l'allemand Emil Rathenau, qui lança Peter Behrens à Berlin, Elana Shapira établit que leur contribution à la naissance d'un style moderne coïncida avec une volonté d'acculturation par laquelle passait leur intégration dans les sociétés françaises, autrichiennes et allemandes. La production élitiste d'objets rares et raffinés dans un style unifié leur permettrait aussi, croyait-il, de ne plus passer pour des représentants de l'éclectisme décoratif, reflet de leur identité multiple, et du capitalisme juif, matérialisé par le grand magasin du Louvre des frères Perrer et les galeries Lafayette de Théophile Bader et Alphonse Kahn. Il n'en fut rien. De même qu'en Allemagne et en Autriche, l'art nouveau sera accusé en France de corrompre le génie national et pire, sous la plume du publiciste Marius Vachon, fondateur de la Société d'art et d'industrie de la Loire, proche d'artistes Henri Dreyfusard, comme le peintre Édouard de Taille. Voici ce qu'écrit Vachon. « Dans les salons, chambres à coucher et salles à manger des hôtels et des appartements de riches bourgeois, où les ameublements en bois précieux, à marqueterie et mosaïque d'un décor somptueux étaient les signes représentatifs de la fortune, du luxe et du haut goût héréditaire, l'art nouveau s'ingéniera par manie d'inversion maladive à placer des meubles de cuisine, sinon de ferme, en bois bru, à peine équarri. » Cette inversion motivait déjà l'hostilité d'Octave Mirbeau. Après avoir mis à l'envers les maisons et les meubles de la pauvre Belgique, M. Van de Velde est venu s'installer à Weimar. C'est de là qu'il déverse sur toute l'Allemagne les produits de ses fantaisies carnavalesques qui l'ont enfin amené à découvrir la quadrature du cercle et la circonférence du carré. Dreyfusard, Mirbeau n'en restaient pas moins français. Plus que jamais, le style reflète les circonstances sociales du moment. Les diatribes anti-art nouveau se rapprochent systématiquement de la rhétorique anti-Dreyfusarde, ajoutant une clé à, je cite Antoine Compagnon, une clé à l'équivalence constamment posée, sans que Proust l'explique jamais, entre l'inversion et le judaïsme. Leurs argumentaires se recoupent à la perfection. On y retrouve l'association des trois ghettos mis en évidence par Yuji Murakami, ghetto juif, ghetto Dreyfusard, ghetto pédéraste. Agent de l'étranger, l'art nouveau est un art pathologique, fallacieux, hybride, efféminé, contraire à la clarté et à la rationalité française. Il mobilise tous les registres de la trahison, jusqu'au thème de l'alchimie et du faussaire, mais je passe sur ces extraits. Le moderne style est, chez Proust, le nom de l'esthétique dreyfusarde. Mais peut-on parler d'esthétique dreyfusarde? À n'en pas douter, lorsque l'on voit Forain traiter la peinture d'Eugène Carrière de peinture dreyfusarde, ou à lire le discours d'inauguration de Vincent d'Indy à l'école de chant liturgique de la Schola Cantorum le 2 novembre 1900. Le titre de la conférence, « Une école d'art répondant aux besoins modernes », annonce la couleur. D'Indy rapproche les missions de la Schola, des idéaux anti-Dreyfusard qu'il associe à la dégénérescence de l'art. Ne nous y trompons point, mes chers amis, ce que nous devons chercher dans nos travaux d'art, ce n'est pas le profit. Laissons ce négoce aux trop nombreux sémites qui encombrent la musique depuis que celle-ci est susceptible de devenir une affaire. Pour Vincent d'Indy, comme pour les ennemis de l'art nouveau, les contingences économiques prétendument dues à l'influence juive sont incompatibles avec un art authentique. La correspondance du musicien précise son délire antisémite. À la veille de son discours à la Schola, il écrit au wagnérien belge Octave Mauss : « Je l'ai toujours dit, nous allons avoir, que dis-je, nous avons actuellement la musique dreyfusiste. Bruno, Charpentier, hélas, Erlanger, Andriès de Rosa, la butte Montmartre et Berlioz aussi peu. Et puis la musique anti-dreyfusiste, Palestrina, Bach, Beethoven, Gluck, Franck, etc. Tout ça n'en faut plus. Ils ont voté l'amnistie pour leurs traîtres et leurs pédérastes, mais nous ne les amnistierons pas qu'ils viennent de la rue Lafitte ou du Faubourg Poissonnière. Évidemment, allusion à la loi d'amnistie de 1900, rue Lafitte, la juiverie riche, Faubourg Poissonnière, la juiverie pauvre. L'association infâme proclame la trilogie des ghettos dissimulée dans la recherche. Et j'en viens à ma conclusion. Eût-il étendu sa classification à d'autres arts, Vincent Dadi n'aurait eu aucun mal à épingler les principaux acteurs du moderne style, à commencer par un artiste dont Marcel Proust ne devait pas seulement admirer la virtuosité technique, Émile Gallet. Le Verrier avait poussé très loin la conception sociale de l'art nouveau, avec l'idée que l'art et le beau devaient être non seulement utiles, mais engagés. Initié à la marqueterie par Montesquieu, Gallet présenta à l'exposition de 1900 une console en noyer de Turquie, gravée d'un vers de la légende des siècles, « Prenez garde à la sombre équité, prenez garde », le chant du sang, pour commémorer le premier massacre des Arméniens dans l'Empire ottoman. Se peut-il que Proust fît allusion à cette commode lorsque la même année, dans son article sur Ruskin à la cathédrale d'Amiens, il loua les nobles accents que M. Gallet a su tirer du cœur harmonieux des chaînes. Gallet multiplia ensuite les verries dreyfusardes, allégoriques, légendées ou dédiées à de grandes figures du dreyfusisme. Proust ne pouvait ignorer cet engagement lorsqu'il offrait des vases de Gallet à ses amis dreyfusards, Fernand Gregg, Robert de Flers et Anna Noailles. Comme l'écrit Bernard Tillier, on oublie souvent que les années de la fondation de l'école de Nancy furent aussi celles de la fête Dreyfus. C'est avec le dessinateur Victor Prouvé que Gallet conçut son plus célèbre vase parlant, Les Hommes Noirs, où la ciguë noire symbolise la calomnie anti-dreyfusarde et le lys doré, la vérité, avec cette citation gravée de Béranger, « Homme noir, d'où sortez-vous ? Nous sortons de dessus terre. » La liste est longue. Dindy aurait, mais ma communication s'achève, Dindy aurait aussi pu invectiver Franz Jourdain, fondateur du Salon d'automne, qui dessina le monument funéraire de Zola au cimetière Montmartre. Et bien sûr, le plus illustre représentant de l'art nouveau, Hector Guimard, dont le premier immeuble de rapport, édifié après sa rencontre avec Victor Horta, avait déchaîné les sarcasmes, puisque l'on taxa le Castel Béranger d'art germanique en raison de ses origines belges, et avec en arrière-plan la fête Dreyfus, on parla de style rastaquaire, et on rebaptisa l'immeuble Castel Déranger. Guimard aggrava son cas lorsqu'il épousa en 1909 le peintre américain Adeline Oppenheim. Elle le présenta à son oncle Joseph Lando, président de l'association Agudas Akeilos, issue de 9 sociétés israélites ashkénazes, courtiers aux Halles et mécènes. C'est ainsi qu'en 1913 fut inauguré un des chefs-d'œuvre du moderne style, la synagogue de la rue Pavée, seul édifice cultuel de Guimard et l'un des plus remarquables témoignages parisiens de cet art nouveau, qui arrivait en France en même temps que la fête Dreyfus, alors que culminait la terreur du cosmopolitisme, ne parviendra jamais à s'imposer durablement en France et bénéficia de rares commandes pour des monuments publics. L'entre-deux-guerres acheva de le discréditer jusque dans la semaine de Suzette, où Bécassine s'esclave devant le pavillon qu'a construit sa cousine Marie Quilouche au lieu d'habiter une maison bretonne traditionnelle. « Une drôle de maison, genre moderne style », affirme mon nouveau cousin. « Moi, je trouve que c'est surtout genre affreux style ». Le créateur de la célèbre domestique, Joseph Porphyre Pinchon, se rappelait-il avoir été l'élève d'Albert Bénard, qui avait décoré le salon en rotonde du rez-de-chaussée de la galerie Bing. C'est donc à ce contexte particulier, très présent, qu'il faut rattacher les occurrences du moderne style dans la recherche. Un instrument du cosmopolitisme au service de l'idéologie dreyfusarde, traité avec une sombre ironie. Peu importe si Proust portait un intérêt médiocre aux arts and crafts et s'il pensait trouver chez Maple des aménagements inspirés par William Morris. Tout en imaginant les reflets de la mer sur les bibliothèques vitrées des expositions modèles, il avait aussitôt capté ce que charriait l'air du temps, ce qu'impliquait se meubler chez Bing et acheter des carrières, et la signification profonde d'un anglicisme apparemment dérisoire.